Merci d'écouter RFI, les 7h30 à Paris et Kinshasa, une heure de moins en temps universel. L'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et cette question à la une ce matin, s'agira-t-il d'une menace supplémentaire en RDC? En tout cas, l'ancien chef de milice Thomas Lubanga annonce la création d'un mouvement politico-militaire, un mouvement baptisé Convention pour la Révolution Populaire. Les horreurs de la guerre au Soudan, avec une frappe imputée à l'armée sur un marché du Darfour Nord, le bilan humain serait très lourd. La justice qui suit son cours en Centrafrique, la Cour pénale spéciale annonce l'arrestation de Mohamed Ali Fadoul, l'un des principaux chefs des groupes d'autodéfense qui était actif il y a une dizaine d'années au moment de la crise dans le quartier du PK5 à Bangui. L'actu foot, également au programme avec un tour rapide des stades après la fin hier de la 6e journée des qualifications pour le Mondial 2026. Et puis notre dossier, la justice est-elle sexiste sur le continent? C'est en tout cas ce que croit une coalition de 24 organisations de la société civile qui ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Un mouvement politico-militaire de plus en RDC. La CRP vient en effet grossir une liste déjà longue. La Convention pour la Révolution Populaire, lancée dimanche par un certain Thomas Lubanga. Un nom qui n'est pas inconnu car il s'agit d'un ancien chef de milice condamné par la Cour pénale internationale à 14 ans de prison pour l'enrôlement d'enfants soldats. Libéré en 2020, après avoir purgé sa peine, installé en Ouganda depuis quelques 7 mois. Il revient donc aujourd'hui sur le devant de la scène, Patient Ligodi.
C'est depuis Berunda, une cité d'environ 15 000 habitants, située à environ 180 km au nord de Bunia, que le mouvement a été officiellement lancé d'après le communiqué fondateur. Berunda est une zone minière où l'on retrouve également de l'élevage de bétail. Le mouvement des Thomas Lubanga considère cette région comme son fief naturel. C'est aussi dans cette zone qu'en septembre dernier, l'armée congolaise affirmait avoir détruit un camp de formation de miliciens. La zone est proche de la frontière ougandaise. Le mouvement confirme disposer d'une branche armée dirigée par le colonel Justin Lobozissi, un officier de forces armées congolaises ayant fait défection selon les sources militaires. Il est présenté comme le chef d'état-major général de ce nouveau mouvement politico-militaire. De son côté, Thomas Lubanga rejette les accusations selon lesquelles il aurait lancé cette initiative pour intégrer le gouvernement d'union nationale en cours de préparation. Il affirme qu'il ne se rendra pas à Kinshasa et nie aussi tout lien avec l'AFCM-23 des Corneille Nangaa.
Patient Ligodi, un gouvernement d'union nationale en cours de préparation en RDC, vous le disiez. Et dans cette optique, le monsieur sécurité du président Tshisekedi mène actuellement des consultations. Mais pour l'heure, Désiré Kachimi-Rébérand n'a reçu que les caciques de la majorité. On y reviendra plus en détail dans notre prochaine édition à 7h30 en temps universel. La RDC encore et cette alerte de Médecins sans frontières sur la situation en Ituri, province voisine du Nord Kivu, en proie à un cycle de violence à caractère communautaire depuis 2017, théâtre également de l'action des groupes armés. MSF dénonce une recrudescence des atrocités sur place dans un rapport intitulé « Risquer sa vie pour survivre ». Les armes qui parlent également dans la guerre fratricide qui déchire le Soudan depuis bientôt 2 ans. Sur place, des associations accusent l'armée d'avoir mené une frappe aérienne meurtrière sur un marché de la ville de Tora au Darfour Nord. En réaction, le secrétariat général des Nations Unies a fait part de son inquiétude autour d'attaques persistantes contre les civils. Car une fois encore, le bilan serait ici très lourd, Gaël Lalex.
Il est impossible de savoir le nombre exact de victimes. Les corps continuent d'arriver, expliquait hier un médecin de l'hôpital rural de Mélite. Dans les médias soudanais, des chefs communautaires ont avancé un premier bilan d'au moins une soixantaine de morts et environ 200 blessés. Nous tenons l'armée soudanaise pour pleinement responsable, écrit sur X Darfour Victims Support. Cette organisation de la société civile a posté une vidéo montrant des dizaines de cadavres calcinés au milieu des décombres de ce qui était l'un des derniers points d'approvisionnement pour les populations civiles du Darfour du Nord. Ce ciblage délibéré des civils constitue un crime de guerre, s'indigne dans un communiqué Emergency Lawyers, une organisation qui documente les exactions de ce conflit. Les populations civiles du Darfour du Nord sont régulièrement victimes des combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. En février et mars, les camps de déplacés de Zamzam et Abouchouk ont subi le feu de l'artillerie des FSR, selon le laboratoire de recherche humanitaire de l'université de Yale. En décembre, l'armée a bombardé le marché de Cap Kabiya à l'ouest d'El Fasher, tuant au moins 80 80 civils, selon les Nations Unies. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Au Soudan du Sud voisin, les médias locaux parlent de bombardements intensifs là aussi. Et l'opposition proche du vice-président Riek Machar dénonce des frappes lundi soir sur l'une de ses bases militaires à Vounali, est à une quinzaine de kilomètres de la capitale Djouba. Le SPLM-IO, le parti du vice-président, parle d'une provocation constitutive d'une violation de l'accord de paix de 2018. L'armée sud-soudanaise, fidèle, elle, au président Salva Kiir, n'a pas fait de commentaire pour le moment. La menace Boko Haram, toujours bien réelle, on le voit dans le nord du Nigeria, avec ce lourd tribut payé par l'armée camerounaise, prise pour cible par des djihadistes déguisés en éleveurs et en commerçants dans la localité de Wulgo. Au moins 11 soldats camerounais ont été tués, selon des sources sécuritaires, 21 autres blessés. C'est l'une des attaques les plus meurtrières de Boko Haram ces derniers mois.
RFI à Bangui, 99.8 FM.
Le travail de justice en Centrafrique, où la Cour pénale spéciale annonce l'arrestation de Mohamed Ali Fadoul, un nom que les habitants du quartier musulman du PK5 connaissent bien à Bangui, car il s'agit de l'un des principaux chefs des groupes d'autodéfense qui régnaient là-bas entre 2013 et 2015. Il est notamment accusé d'avoir participé à l'attaque en mai 2014 contre l'église catholique Notre-Dame de Fatima dans le 6e arrondissement de la capitale. Ce drame avait coûté la vie à au moins 15 personnes, dont l'abbé Émile Nzalé. Près d'une quarantaine de personnes avaient aussi été kidnappées et portées disparues. Et le souvenir, encore aujourd'hui, reste à vif. Reportage Rolf Stevdonialeux.
Debout en face de l'église Notre-Dame, Fabrice enlève ses lunettes, s'incline devant la statue de l'enfant Jésus et fait un signe de croix sur son visage.
L'attaque s'est déroulée ici dans l'après-midi. Les assaillants étaient très nombreux et lourdement armés. Ils ont d'abord lancé des grenades dans l'église avant d'ouvrir le feu sur les fidèles.
Le visage pâle, Bertin, 43 ans, était également dans l'église quand les assaillants ont attaqué les lieux à la veille de l'ascension.
C'était terrifiant. Ils sont entrés par plusieurs portes, on était tous paniqués. Je courais dans tous les sens avant de me cacher dans le presbytère.
Interpellé par des officiers de police judiciaire le 20 mars 2025 suite à un mandat d'arrêt, Mohamed Ali Fadoul, l'un des présumés commanditaires de cette attaque, est actuellement en détention. Gervais Oporté Bodangaï est porte-parole de la CPS.
Pendant cette attaque, il y a eu des cas de meurtre qui est en lien avec des crimes de guerre et aussi des meurtres d'extermination des personnes considérées comme crimes contre l'humanité pour lesquels la Cour pénale spéciale est compétente. Sa première comparution a eu lieu directement le 21 mars et il est placé en détention par la Cour pénale spéciale.
8 autres personnes ont déjà été inculpées dans le cadre de cette affaire. Pour l'instant, la procédure d'instruction se poursuit. Rolf Estève Domialeux, Bangui, RFI.
Justice aux États-Unis avec un possible procès pénal annoncé pour Boeing le 23 juin prochain. Le constructeur aéronautique américain pourrait être jugé par un jury populaire au Texas, affaire en lien avec deux crashs de Boeing 737 MAX 8. Le premier de la Lion Air en Indonésie en 2018, le second de l'Ethiopian Airlines en Éthiopie en 2019. Notons toutefois qu'une procédure de plaidé coupable est engagée dans ce dossier, c'est-à-dire qu'un règlement amiable reste possible entre l'avionneur et le gouvernement américain, mais une date butoir était fixée au 11 avril pour un accord. Or, le juge fédéral texan ayant annoncé ce procès l'a annulé. Boeing affirme toutefois que les discussions se poursuivent. Allez, direction le Congo-Brazzaville à présent, où le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, effectuait un déplacement hier dans l'une des plus grandes régions agricoles du pays, la Bouenza, dans le sud. Visite pour superviser les opérations de récolte et pour valoriser au passage l'action du gouvernement qui avait investi sur place dans des tracteurs et des moissonneuses. Envoyé spécial pour suivre ce déplacement, Loïcia Martial.
Mardi, peu avant midi, l'opération de récolte de maïs avec une moissonneuse batteuse a attiré les habitants des alentours de cette zone agricole protégée. Responsable de près de 60 hectares, Bienvenue Roger Mabika a reçu son nouveau matériel il y a quelques mois et depuis, il est un homme heureux.
Par hectare, nous pouvons faire au moins 3 tonnes. Et si nous prenons 3 tonnes par hectare, ça veut tout simplement dire que nous devons donc nous retrouver avec près de 180 tonnes. Mais ce maïs devra servir pour tous ceux qui en ont besoin, tels que les brasseries, tels que les fermes.
Selon le gouvernement, le Congo-Brazzaville connaît un sérieux problème pour nourrir son bétail, la production étant insuffisante, faute d'importations massives. Le président Denis Sassou Nguesso a remercié les paysans pour leur présence et leurs actions.
Merci pour la façon dont vous avez accepté le mot d'ordre du président lancé lors de la campagne électorale de 2021. Il faut qu'au Congo, l'agriculture aille de l'avant.
Pour le président, chaque région du Congo devrait avoir sa propre zone de production agricole afin de lutter efficacement contre la sous-alimentation et le chômage. Loïcia Martial, de retour de la Bouenza, RFI.
L'actu foot sur RFI avec la suite et la fin hier de la sixième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. 15 matchs au programme, dont une victoire pour les Camerounais, une victoire également pour la RDC. Mais une nouvelle déception en revanche pour le Nigeria, seulement quatrième de son groupe C après un match nul un partout face au Zimbabwe. Les Super Eagles avaient pourtant ouvert le score à la 74e, mais les visiteurs ont égalisé à la dernière minute. Dur à encaisser pour le sélectionneur malien du Nigeria, Eric Sekouchel.
Nous avons fait une excellente première mi-temps avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Les 10 dernières minutes ont été plus difficiles. Les joueurs étaient un peu fatigués. Je suis très déçu pour eux et pour le pays. Je pense que nous pouvons encore viser la deuxième place. En tout cas, l'équipe a progressé dans l'impact et avec le ballon, que ce soit en attaque rapide ou dans la construction. On méritait de gagner, mais c'est le football. Nous avons vu beaucoup de matchs comme celui-ci. Encore une fois, je pense que nous méritions mieux ce soir.
Eric Sekouchel, le sélectionneur du Mali, et tous les résultats à retrouver bien sûr sur Internet. Les femmes condamnées à mort en Afrique sont-elles victimes d'une justice à deux vitesses ? Alerte par une coalition de 24 organisations de la société civile. Elles saisissent la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dernière pour dénoncer une discrimination systémique, Christina Okello.
Stéréotypes sexistes, violences ignorées, pauvreté, autant de facteurs qui expliquent pourquoi la justice africaine est plus sévère envers les femmes. Pour Juliette Kaikai, avocate sierra-léonaise, le système judiciaire en Afrique ne tient pas compte des vulnérabilités des femmes accusées.
Beaucoup de femmes condamnées à mort ont un passé de violence basée sur le genre. Prenons le cas d'Aminata. Son ex-compagnon, qu'elle avait quitté après des abus répétés, l'a un jour frappée avec un tuyau en caoutchouc. Elle a attrapé ce qu'elle pouvait pour se défendre. C'était un couteau. Arrêtée, elle a découvert qu'elle l'avait mortellement blessée.
Mais au tribunal, le passé des violences d'Aminata n'a pas pesé lourd.
Le juge a estimé que pour invoquer la légitime défense, la riposte devait être proportionnée. Or, lui avait un tuyau, elle un couteau. Verdict, coupable.
Mais au-delà de la notion de proportionnalité, il y a aussi le poids des normes sociales.
Dans nos sociétés, une femme est censée être douce, maternelle, se comporter d'une certaine façon. Si elle sort de ce cadre, cela influence la manière dont la justice la perçoit. Prenons l'exemple d'une femme qui tue son partenaire. Personne ne cherche à comprendre ce qui l'a poussée à agir. Tout de suite, c'est « une femme ne fait pas ça ».
Dans ces conditions, difficile d'espérer un procès équitable. Et encore faut-il pouvoir se défendre. Faute de moyens, de nombreuses femmes n'ont pas accès à un avocat, ce qui aggrave les inégalités face à la justice.
Dénoncer des injustices, Christina Okello, mais également ensuite réclamer l'abolition de la peine de mort. C'est la prochaine étape, comme nous l'explique Sabrina Matani, avocate britannique zambienne et fondatrice de Women Beyond Walls.
La Cour africaine a déjà joué un rôle clé en donnant des directives au gouvernement, notamment sur la dépénalisation des délits mineurs qui envoient trop souvent les femmes en prison à cause de la pauvreté. Cette décision a permis de reconnaître que des milliers de femmes sont incarcérées pour des infractions mineures, alors qu'elles n'auraient jamais dû se retrouver derrière les barreaux. Aujourd'hui, la Cour a une opportunité cruciale, examiner la peine de mort et voir si elle respecte vraiment la Charte africaine des droits de l'homme, notamment le droit à la vie et à la non-discrimination. Mais l'enjeu dépasse largement le continent. Aux États-Unis, plus de 40 femmes sont dans le couloir de la mort. Dans 34 pays, la peine capitale est encore appliquée pour des crimes liés à la drogue, alors que le droit international interdit la peine de mort pour des infractions non violentes. Ce dossier est donc essentiel, pas seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde entier.
L'avocate Sabrina Matani pour refermer notre dossier signé Christina Okello. Et notre matinale continue maintenant avec André-Anne Mellard.